Bonjour à vous tous qui suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, la voix de l'Amérique depuis Washington DC. Je suis Nanit Talani. L'épidémie de rougeole la plus importante et la plus rapide au monde continue de s'étendre en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, l'OMS et ses partenaires viennent de lancer une troisième campagne de vaccination d'urgence dans 24 zones afin d'essayer de contenir cette épidémie. Quelle est l'efficacité et quel est l'impact de cette campagne? Qui doit se faire vacciner et pourquoi? Le docteur Deo Nchimirimana.
Pour traiter la rougeole, je mettrai vraiment le vaccin. Dans tous les pays, partout où on a vacciné, on a vu que la maladie disparaissait.
Le docteur Deo Nchimirimana, représentant de l'OMS en RDC, sera avec nous et répondra à ces questions dans ce magazine consacré à la santé. Après cela, dans la seconde partie, vous suivrez Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Il portera sur le stress.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
À présent, nous vous invitons à écouter notre entretien avec le docteur Deo Nchimirimana, représentant de l'OMS en RDC.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Bonjour docteur.
Bonjour.
L'OMS et ses partenaires ont commencé une troisième campagne d'urgence de vaccination contre la rougeole en RDC. Qu'est-ce qui justifie cette troisième campagne?
La justification de cette campagne est que depuis le début de l'année, nous avons des épidémies dans presque tout le pays. On a eu déjà presque 2000 cas et 4000 décès depuis le début de l'année. Il y a eu effectivement des campagnes de riposte qui ont été organisées par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires comme l'UNICEF, MSF et d'autres ONG. Il y a eu 3 campagnes déjà qui ont été organisées par l'OMS avec les autres, bien sûr en appui au gouvernement.
Combien de campagnes de vaccination contre la rougeole y aura-t-il depuis le mois dernier, donc le mois de septembre, jusqu'à la fin de ce mois d'octobre? Combien avez-vous prévu?
Il y aura 2 types de campagnes. Bien sûr qu'il y a des zones de santé qui sont affectées par le virus, de nouvelles zones de santé. C'est-à-dire que nous, avec la surveillance épidémiologique, nous recensons toutes ces zones de santé et nous mobilisons des ressources pour répondre à cette épidémie-là, pour faire la riposte. Deuxième type de campagne, c'est les campagnes de suivi qui sont organisées en 3 blocs.
Quels sont ces blocs?
Le premier bloc va couvrir cette province et va avoir lieu du 22 au 26 octobre. Un deuxième bloc va être organisé du 10 au 14 décembre et qui va couvrir 9 provinces. Et enfin, un dernier bloc, toutes les populations. C'est beaucoup plus les populations qui ont difficile d'accès au centre de soins, beaucoup plus. Mais nous retrouvons même des populations qui sont près des centres de santé ou qui ne sont pas vaccinées parce que les enfants ne sont pas vaccinés dans la routine.
Est-ce qu'il y aura assez de vaccins pour couvrir toutes les zones que vous avez mentionnées?
Oui, nous avons vraiment des vaccins nécessaires. Le gouvernement a acheté la majorité des vaccins et puis le reste a été complété par la communauté internationale.
Y aura-t-il assez de fonds pour aller jusqu'au bout de la campagne?
Nous avons suffisamment de vaccins. Parce que pour vacciner, il faut avoir un vaccin. Mais nous avons effectivement aussi besoin de coûts opérationnels pour acheter les kits de prise en charge, pour bien sûr faire marcher la vaccination, c'est-à-dire avoir suffisamment de vaccinateurs pour vacciner.
Quels sont les moyens de sensibilisation que vous utilisez pour surmonter la résistance de certaines familles? Parce que je pense que certaines personnes sont réticentes. Comment est-ce que vous faites pour arriver à bout de leur résistance?
Bien sûr, une des stratégies pour vacciner, pour pouvoir atteindre beaucoup plus de monde, c'est la sensibilisation. Nous n'avons pas vraiment à parler beaucoup de résistance. Ce qui résiste, c'est peut-être certaines personnes qui sont découragées par certains agents de santé qui les accueillent pas très bien. Mais sinon, on n'a pas du tout cet esprit-là d'anti-vaccin.
Est-ce que ce vaccin contre la rougeole est vraiment sûr ou il présente quelques dangers?
Il est très sûr. C'est un vaccin qui est connu depuis très longtemps. C'est vrai qu'il n'a pas une efficacité de 100%, mais si on parvient à vacciner plus de 90% dans une communauté, les enfants qui ne sont pas vaccinés sont protégés. Donc, le vaccin est sûr. Il faut que vraiment tout le monde puisse adhérer à cette vaccination pendant la routine. Parce que s'il y a aujourd'hui des épidémies, c'est parce que la couverture de routine est très faible. Elle était estimée à 57% l'année dernière. Donc, vous comprenez qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas vaccinés, donc qui n'étaient pas immunisés. Et il y a eu une accumulation de susceptibles qui ont fait qu'à un certain moment, il y a eu une explosion des épidémies un peu partout.
S'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, mais qui ont attrapé la maladie, est-ce qu'il y a un traitement ou il faut obligatoirement que les gens se fassent vraiment vacciner pour se protéger?
La première mesure de prévention, c'est vraiment la prévention, c'est la vaccination, se faire vacciner. Mais une fois qu'on a la rougeole, parce qu'on n'a pas été vacciné, bien sûr, il faut aller dans un centre de santé où on a quelques médicaments qui peuvent effectivement être utilisés. Mais il n'y a pas un traitement comme tel pour soigner le virus. On soigne les symptômes, comme la fièvre, on donne la vitamine A. S'il y a des complications, on donne d'autres médicaments comme les antibiotiques.
Excepté le vaccin, quels sont les moyens que les populations peuvent utiliser pour prévenir la rougeole?
Pour prévenir la rougeole, ce n'est que vraiment le vaccin. Le vaccin, comme je vous l'ai dit, il est efficace. Il est vraiment dans tous les pays, partout où on a vacciné, on a vu que la maladie disparaissait. Contrairement aux autres années, dans les années 80, on avait beaucoup de décès d'enfants, de rougeole, parce qu'à cette époque-là, la vaccination n'était pas du tout partout. Mais ce vaccin, depuis qu'il a été introduit, et là où il a été utilisé, dans les pays où ils ont des couvertures vaccinales très élevées, on n'a pas du tout de cas de rougeole. Il y a même des pays où les étudiants de la faculté de médecine ne voient pas du tout de cas dans leur pays.
Pourquoi est-ce que la rougeole revient souvent en Afrique? Est-ce que les anti-vaccins sont responsables de la recrudescence de la rougeole ou il y a une autre explication à cela?
Comme je vous l'ai dit, en Afrique et particulièrement en RDC, ce n'est pas vraiment les anti-vaccins. C'est beaucoup plus l'accès à la vaccination. Il y a des ruptures de stock ou s'il n'y a pas de rupture de stock, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation pour vraiment faire adhérer à cette vaccination. Donc le remède, c'est vraiment sensibiliser les gens pour qu'ils aillent se faire vacciner.
On a un auditeur en RDC, Alphonse Mouaki, qui pose cette question. Pour l'efficacité de cette campagne, est-ce que vous faites aussi de porte à porte ou de maison en maison pour atteindre une large majorité des enfants? Et est-ce que vous allez aussi dans les écoles?
Les stratégies qui sont utilisées, bien sûr, il y a les centres de santé, il y a des postes avancés, ça peut être des écoles, ça peut être des églises. On forme beaucoup de personnel pour aller vacciner. Donc, on essaie d'approcher la population autant que possible pour pouvoir vacciner beaucoup plus de monde. L'objectif étant de vacciner tous les enfants de 6 à 59 mois pendant cette campagne-là.
Pour cette troisième campagne de vaccination, quels sont les partenaires qui travaillent avec l'OMS?
Il y a l'OMS donc, qui travaille avec l'UNICEF, deux ONG comme l'UNICEF, Première Internationale. Il y a d'autres ONG d'ailleurs qui se sont fait connaître, comme ALIMA, Médecins du Monde, comme Caritas et d'autres, Save the Children, Magma. Il y a beaucoup d'ONG en RDC et ces ONG ont accepté effectivement de participer, surtout dans la vaccination des 60 zones de santé dans les jours à venir.
L'OMS a mis en place un comité de sensibilisation à la rougeole. Quel est le rôle de ce comité?
C'est un comité qui travaille au jour le jour avec les autorités nationales pour non seulement faire la sensibilisation, mais également et faire le plaidoyer pour mobiliser beaucoup plus de ressources, mais également pour surveiller cette maladie et peut-être essayer de voir s'il y a d'autres zones qui sont en épidémie. Cette équipe travaille vraiment d'arrache-pied et essaye aussi de faire une bonne préparation de ces campagnes une fois que nous avons le vaccin et les ressources nécessaires pour qu'on puisse atteindre le plus d'enfants possible pour arrêter justement cette épidémie.
Qui fait partie de ce comité? Est-ce que ce sont des personnes physiques ou des ONG?
tout le monde et toutes les institutions, en tout cas qui participent à la riposte vaccinale et même aux campagnes de suivi, font partie justement de cette équipe. C'est un travail en équipe et tous les mercredis, nous nous rencontrons pour faire le point, voir ce qui est fait, voir ce qui n'est pas fait, voir si toutefois il y a des ressources supplémentaires nécessaires et faire le plaidoyer auprès des donateurs.
Comment est-ce que tout le monde en République démocratique du Congo, donc y compris les populations, les pouvoirs publics, les autorités sanitaires, la société civile, comment tout le monde peut-il contribuer à faire de cette troisième campagne de vaccination contre la rougeole un vrai succès?
Tout le monde est sensibilisé, surtout au niveau des communautés. Au niveau de la province, le gouverneur, avec ses équipes qui est assistée par le directeur provincial de la santé, le ministre de la santé provinciale et les comités locaux, ainsi que dans les zones où nous intervenons, il y a également des comités qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied pour sensibiliser les communautés et utiliser les structures communautaires pour sensibiliser tout le monde. Nous faisons appel à tous les parlementaires de la zone, par exemple, pour qu'ils puissent nous aider à mobiliser les populations et avoir une bonne couverture vaccinale.
Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra venir à bout de la rougeole ou on pourra remporter la victoire contre la rougeole, non seulement RDC, mais aussi dans toute l'Afrique?
Certainement, certainement. J'ai vu tous les efforts qui ont été faits pour éradiquer la polio. La rougeole, on a aussi des objectifs d'élimination de la rougeole. Ça va prendre du temps, mais une fois qu'on aura en tout cas appuyé les pays pour améliorer le système de santé et que la couverture vaccinale va être au-dessus de 90%, ce qui est en souhait même du chef de l'État qui a signé un acte d'engagement il n'y a pas longtemps, au nom de toute la population, toutes les couches de la population congolaise, pour en finir avec les maladies évitables par la vaccination, dont la polio et la rougeole.
Quelle est la différence de cette troisième campagne de vaccination par rapport aux deux campagnes précédentes?
Au fur et à mesure, nous nous améliorons, surtout dans les préparatifs. C'est vrai que les deux premières ont été faites. C'est vrai qu'on a atteint des taux qui sont acceptables. Lorsqu'on a vacciné dans les 63 zones, on a vu que jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on suit la courbe épidémique, il y a très peu de cas dans ces zones de santé qui ont été vaccinées. Mais pour le moment, je pense que nous avons appris de l'expérience du passé dans les différentes stratégies que nous utilisons et nous voyons qu'il y a de l'amélioration, en tout cas, dans la vaccination, dans les stratégies, dans la mise en œuvre des stratégies que nous utilisons aujourd'hui.
Quel conseil pouvez-vous donner à toutes les populations qui vivent dans des zones qui sont retenues pour cette campagne de vaccination contre la rougeole?
Le conseil, bien sûr, c'est que toutes les structures devraient s'y mettre, toutes les couches de la population devraient s'y mettre pour sensibiliser les populations, pour sensibiliser les mamans, les papas qui sont dans les zones atteintes, pour que non seulement ils aillent rapidement se faire vacciner au centre de santé, mais également pour que ils puissent aller dans les centres créés pour la campagne et faire vacciner leurs enfants.
Merci beaucoup, Dr Deon Chimirimana, d'avoir répondu à nos questions.
Merci, madame.
VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Vous venez d'écouter notre entretien avec le docteur Deo Nchimirimana, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo. Maintenant, place à Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un expert nous donne quelques conseils pour prévenir ou gérer le stress. La cigarette électronique serait-elle sans effet néfaste sur la santé? La réponse dans votre rubrique « Vrai ou faux ». Enfin, un détecteur portable d'allergènes pourrait aider le consommateur à se protéger contre les allergies. C'est dans cette édition de Carnet de santé.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de santé. Ravie d'être avec vous. Imaginez ceci, vous avez des factures à payer, mais vous êtes sans emploi, peut-être depuis 6 mois, ou alors les enfants n'arrêtent pas de crier, ou peut-être que vous êtes en retard pour une réunion, vous êtes sûrement stressé. Le stress fait en réalité partie de la vie, il peut vous motiver à avancer dans votre travail, mais si vous ne maîtrisez pas votre stress assez rapidement, cela peut sérieusement perturber votre travail, votre vie de famille, et même votre santé. En somme, le stress est un réflexe tant psychologique que physiologique de l'organisme devant une situation difficile. Selon une étude réalisée par le site de recherche sur l'emploi Office Vibe, 77% des salariés dans le monde ressentent quotidiennement des douleurs physiques attribuables au stress. Nous nous sommes rendus à Dakar où nous vous avons demandé qu'est-ce qui vous cause du stress. Voici vos témoignages recueillis par Echa Sarai.
Qu'est-ce qu'on fait pour combattre le stress? Oui. Il y a un bon truc pour combattre le stress, c'est la prière.
Okay.
Et se détendre. Donc dans Dakar, il y a beaucoup de spots pour se détendre, notamment aller en bord de plage et aller prendre un verre avec des amis en bord de plage, c'est déjà très bien.
Ah mais il faut travailler, parce que tu travailles, bon, mais il n'y a pas de stress. Hein.
Moi, je pars tous les jours pour m'entraîner. Après, j'écoute la musique. Après, je rentre chez moi. Après, je vais faire étirement. Après, si j'ai fini, je vais me laver. Après, je me repose.
Pour éviter le stress, il faut aussi en parlant, vous fixer un jour. Bon, comme l'a dit tout à l'heure, le sport, bon, et parler surtout beaucoup, discuter avec tes amis comme ça.
Pour éviter le stress, je vous recommande de faire du sport, d'écouter des musiques douces ou d'être en réunion, en communication avec d'autres personnes, quoi, pour discuter, pour échanger des idées, quoi, et faire des marches. Éviter d'être seul, surtout.
Qu'est-ce qui cause le stress? Comment l'éviter ou le maîtriser? Pour en savoir plus, nous joignons William Heckman, directeur exécutif de l'Institut américain du stress. Monsieur Heckman, merci d'être avec nous.
Oui, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir.
Quels sont les signes qui indiquent que quelqu'un est stressé et comment pouvons-nous comprendre ce qu'est le stress?
Vous savez, c'est une très bonne question, on me la pose souvent. Qu'est-ce qui est le stress? Pour être honnête avec vous, il n'existe pas une définition unique du stress. Ce qui semble être stressant pour vous peut être réellement agréable pour moi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le plus souvent, le stress est décrit comme une tension physique, mentale ou émotionnelle perçue par votre corps. On l'appelle parfois fight or flight syndrome, le syndrome de lutte ou de fuite. Votre pouls augmente, votre souffle s'accélère et vos muscles peuvent se raidir. C'est en effet une réponse conçue pour protéger votre corps en cas d'urgence.
Ok, alors qu'en est-il de la façon dont cela affecte notre corps et peut-être même notre santé mentale? Comment pouvons-nous en reconnaître les signes?
Bien, c'est une bonne question. Encore une fois, si vous vous sentez stressé à propos de quelque chose, votre pouls peut augmenter, vous pouvez ressentir de maux de tête et, dans certains cas extrêmes, une attaque de panique ou quelque chose du genre. Donc, si vous vous sentez dans un état inhabituel, vous devriez examiner ce que vous avez et voir si c'est là un rapport avec du stress dans votre vie.
Donc, lorsque nous examinons la question, vous avez mentionné le fait que la cause du stress chez une personne peut donner des résultats différents chez d'autres personnes. Alors, que pouvons-nous faire pour prévenir ou réduire le stress de façon générale?
Nous pouvons gérer notre stress. En fait, notre stress n'est rien d'autre que la manière dont nous percevons les choses. Il existe de nombreuses techniques de gestion du stress. Si vous allez sur stress.org, notre site web, nous y avons beaucoup de façons de gérer le stress. Et les manières sont différentes pour chacun, mais de façon générale, nous pouvons tous faire certaines choses. Le sport est toujours un excellent moyen de réduire le stress. Manger correctement, passer une bonne nuit de sommeil. C'est juste du bon sens. Mais ce qui va soulager votre stress sera un peu différent pour chaque personne. Certaines personnes peuvent peindre et d'autres peuvent faire de l'exercice physique.
OK, Mr. Hackman, thank you so much for OK, d'accord, Monsieur Hackman. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous avons posé la question suivante. Que faites-vous pour vous détendre lorsque vous êtes stressé ou comment faites-vous pour réduire votre stress? Voici ce que certains d'entre vous ont répondu sur Facebook. Martina Kabamba dit: pour me détendre, j'écoute de la musique et surtout ma chanson préférée. C'est un grand remède pour moi. Jeff Munda nous dit: quand je suis stressée, j'anime mes proches avec de l'humour, un peu de comédie. Je souris, je ris même. Et Daouda Soare qui dit: je fais du sport quand je suis stressée, tout simplement. Ensuite, Erjin Gala nous dit: quand je suis stressée, je lis les commentaires sur Facebook notamment. Mais merci d'avoir partagé avec nous vos astuces. À Los Angeles, une thérapeute du mouvement de la danse aide les patients à réduire leur stress et leur anxiété tout en apprenant à vivre en paix. Sa méthode encourage à passer du temps à la plage et danser pour chasser la douleur, la peur et le désespoir. Angelina Bagdasarian a rencontré la thérapeute pour en apprendre davantage sur le pouvoir de la danse.
Yulia Wisniewski explique que chaque mouvement contribue à un objectif. Pendant qu'elle écoute de la musique via son casque, Yulia danse et s'abandonne à une véritable catharsis de ses émotions.
Mon père est décédé subitement il y a 9 ans et j'ai réalisé que la danse m'aidait à gérer mes émotions et ma tristesse. J'ai pu mieux me comprendre en dansant.
Ce qui a commencé comme un passe-temps est devenu un métier. Yulia s'est lancée dans la thérapie à travers la danse. Elle a obtenu un diplôme de conseillère en santé mentale et s'est spécialisée dans la thérapie par les arts expressifs et les mouvements de danse. La thérapeute a su choisir la salle de danse idéale, une plage dorée de Venice Beach à Los Angeles.
Nous étudions les liens étroits entre les mouvements du corps et les émotions. Nous apprenons à utiliser la musique et la danse pour nous aider à nous débarrasser de la dépression, à réduire le stress et à surmonter les traumatismes de l'enfance.
Chaque lundi, des dizaines et parfois même des centaines de personnes se rendent sur cette plage. Munies de casques, elles pratiquent la danse thérapeutique. Les cours coûtent $20, mais même ceux n'étant pas en mesure de payer sont toujours les bienvenus. Pour Yulia, c'est très simple. Si quelqu'un ressent le besoin de venir, il est accueilli les bras ouverts. La thérapeute montre les mouvements et les gens tentent d'exprimer leurs émotions par la danse en essayant de laisser leur peine sur la plage.
Je me sens libre, je me sens ouverte. J'ai l'impression que le stress que je ressens d'être simplement humaine commence à se dissiper. Parfois, les gens pleurent lors de la libération de leurs émotions. C'est un espace dans lequel vous pouvez tout ressentir.
Pour les spectateurs, le concept peut sembler drôle. Un club de danse sans musique sur la plage, mais les riverains y sont habitués.
La danse ne sert pas uniquement lors des mariages. Quelle que soit votre humeur, la danse a un impact sur vous. Les gens vous disent peut-être: oh, je n'ai pas envie de danser, mais c'est exactement à ce moment-là qu'il faut danser.
Les cigarettes électroniques représentent un danger majeur selon un rapport du Centre de contrôle et de la prévention des maladies aux États-Unis. Supposée être une alternative positive au tabagisme traditionnel, l'utilisation des cigarettes électroniques, aussi appelées vapotage, ont en quelques années séduit des millions de consommateurs, particulièrement les jeunes. Mais la cigarette électronique serait-elle sans effet néfaste sur la santé? Jérôme Adams, chirurgien généraliste aux États-Unis, nous en dit plus.
Nous savons que l'exposition à la nicotine pendant l'adolescence peut nuire de manière unique au cerveau en développement des adolescents, affectant ainsi l'apprentissage, la mémoire et l'attention. Nous savons que l'exposition pendant cette période critique du cerveau peut entraîner d'autres dépendances et nous savons que la notion selon laquelle l'aérosol de cigarette électronique est aussi inoffensif que la vapeur d'eau, quelque chose que même mon fils de 14 ans pensait être vrai, est un mythe. Un tiers des jeunes qui ont déjà consommé des cigarettes électroniques ont consommé de la marijuana. Pourtant, 2 ans après que mon prédécesseur a tiré la sonnette d'alarme, l'utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes a explosé. Si bien qu'aujourd'hui, je déclare officiellement la consommation des cigarettes chez les jeunes une épidémie aux États-Unis.
Le premier décès lié à la cigarette électronique a été enregistré récemment ici aux États-Unis. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la cigarette électronique est incontestablement nocive. Que vous viviez dans une ville ou en campagne, il y a toujours des choses dans l'air invisible à l'œil nu qui pourraient vous faire éternuer ou causer une maladie grave. La détection de ces particules microscopiques telles que le pollen, les moisissures et les polluants pourrait prendre beaucoup de temps et coûter cher. Un laboratoire de l'Université de Californie à Los Angeles tente de résoudre ce problème en mettant au point un détecteur portable d'allergènes pour les consommateurs. Reportage d'Elisabeth Lee.
Les plantes à fleurs et les animaux domestiques peuvent sembler jolis et mignons, mais ils émettent tous de petites particules dans l'air pouvant causer des problèmes de santé. Aydoan Özcan et son équipe à l'UCLA développent cet appareil portable appelé microscope informatique, capable de détecter des particules telles que la moisissure, le pollen et même les polluants présents dans les maisons et même les voitures.
Cet appareil peut examiner la contamination de l'air, les particules, leur densité.
Özcan affirme qu'il est précis à plus de 90% dans l'identification des allergènes tels que le pollen et les moisissures. Les particules de l'air sont déposées sur un matériau transparent jetable à l'intérieur. Ensuite, une lumière brille sur ces particules, créant des hologrammes.
Il faut ensuite un moteur de calcul pour reconstruire cet hologramme et créer des images que nous sommes habitués à voir à travers un microscope classique comme celui-ci. Cet appareil est donc contrôlé par un téléphone portable. Le téléphone lui-même a une application spécifique qui est l'interface utilisateur graphique pour montrer ce que vous avez capturé ainsi que les résultats.
Selon Özcan, l'imageur pixel de 10 ou 15 mégas dans les téléphones mobiles permet que ce détecteur d'allergènes fonctionne. L'imageur enregistre des motifs de diffraction provenant des particules.
Grâce aux milliards d'utilisateurs de ces téléphones mobiles qui ont besoin de ces caméras, nous pouvons les miniaturiser tout en restant compétitifs en termes de performance par rapport à une instrumentation de pointe.
Özcan et son équipe travailleront à rendre cet appareil un peu plus petit. Il dit qu'il devrait coûter moins de $100 et espère le rendre disponible pour les consommateurs d'ici quelques années.
Ce détecteur portable d'allergènes est une innovation très intéressante qu'on espère vraiment effective et aussi à la portée de tout le monde. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons de la drépanocytose. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt.
Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir de cette semaine. Ce programme s'articulait autour de la troisième campagne de vaccination d'urgence contre la rougeole en République démocratique du Congo. Nous étions en compagnie du docteur Deo Ntimirimana, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. Il a expliqué en quoi cette campagne est différente des deux précédentes. Il a également donné les raisons pour lesquelles les populations concernées devaient se faire vacciner. Dans la seconde partie de notre magazine, vous avez suivi Carnet de santé avec Linor Moudou. Il était consacré au stress. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Chet Tiro, à la réalisation Carl Sterling. Je suis Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
VOA Afrique.